avec Leïla Kadouri, Morgane Gavignan, Florence Mendes, Tom Villa, Tanguy Bassiro, Daniel Morin.
Bonjour monsieur.
Mais incroyable, et notre invité est André Dussolier.
Oh, oui, André.
Nous allons évoquer avec lui Juliette dans son bain, téléfilm qui sera diffusé ce soir 20h55 sur Arte. Quand on a un titre comme Juliette dans son bain, qu'est-ce que l'on peut bien faire comme blind test?
Ah merde,
ah, oui, oui.
Leïla. Leïla. Richard Anthony.
Non.
Hervé Villa, Tanguy.
Leïla.
Non, c'est Hervé Villa.
Non.
Christophe.
Daniel.
Oui, oui, c'est ça.
Christophe.
Daniel.
Quel titre?
Aline.
Ah bah oui, mais après bah, tu vas...
Ah oui. Ah oui, en plus c'est un classique. On est nuls.
Vous n'avez pas trouvé Aline,
Aline.
Non.
Oui.
Pour qu'elle revienne. Quel rapport avec le bain?
C'est Aline.
Je crois que ce sont les prénoms, Daniel.
C'est un peu ça.
Juliette, Aline. Daniel, peut-être.
Ah ouais, Daniel.
Daniela.
Daniela.
Ouais. Oh, j'aurais dû.
Seulement le soir. Seulement le soir.
Ah. Oh, j'aurais dû. J'ai pas choisi.
Dommage.
Leïla. Aïcha. Aïcha.
Ouais.
J'adore, attends. J'adore cette chanson.
Pourquoi?
Ça me rappelle...
Qui?
Club Med 96, Gerbanus,
Daniel.
Le chameau et les deux Allemandes.
Le cours de yoga commence dans 20 minutes.
Qui m'avait donné Aline? C'est toi?
Oui.
Toi aussi?
Oui.
Non, elle n'avait pas donné
Christophe.
Son prénom.
Non, j'ai Christophe.
Moi, j'ai juste suivi les règles, j'ai dit Daniel.
Non.
Voilà, non, mais je
ça fait 5 ans qu'on fait le blind test.
Je fais les Daniel. Daniel, moi, c'est tout. Hein.
Oui.
Je sais pas, hein. Attends,
est-ce que le point va à celui qui respecte les règles ou celle qui a d'abord donné la réponse?
Bah, qui a créé le jeu?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que le vendredi tout change?
Bon, on n'a pas écouté assez.
Je m'en fous. Voilà. C'est mon point, c'est mon point.
Ouais, celui qui n'est pas content, voilà. Il pète la gueule.
C'était bien ça quand même. C'est Jean-Jacques Goldman. Tout. Parole et musique.
C'est Jean-Jacques Goldman,
non? Non, ça c'est vrai.
Et d'ailleurs, à des victoires de la musique, ils avaient chanté tous les deux ensemble.
C'était beau.
C'était, ouais. Super. Ouais. On le voyait arriver comme ça d'un coup.
Avec
qui chante ça?
Tom.
Leïla.
Tom.
Non,
c'est Tom.
C'est Tom.
C'est Tom.
Je crois.
Ouais. Bon, Roxane.
Ouais. Mais...
Daniel, Roxane.
On suit les règles ou
pas? On suit les règles ou pas?
Daniel qui était respectueux toute sa vie.
Ah bon, en fin de parcours, fait n'importe quoi.
Merci.
En fin de parcours, t'as dit?
Oui. Je suis en bout de piste. Hein. Je suis en bout de piste.
On qui est sur la ça coupe.
Tanguy, Gage Petit, Etienne. Ah ouais, Etienne.
Oh là là, attends, j'y
Etienne. Oh, j'aime bien.
Daniel.
Trop tard.
Daniel.
Ah, je joue sur Morin, on écoute beaucoup ça.
Ah ouais.
Ça avait été un énorme succès, ça, quand
ouais,
même.
Ah bah ouais.
T'as connu Morgane ou t'es non Florence?
J'ai connu à retardement.
C'est vrai.
Puis ça a pas vieilli. Yeah. C'est chouette, ça.
Le clip.
Ouais. Les arrangements, tout.
Ouais,
une chaise, une
hyper
chaise.
C'est hyper moderne.
Moi, je me suis jamais assis sur une chaise de la même manière après. Ça m'a fait
rêver. C'était une excellente danseuse, Gage Patti.
J'allais chez Fly et je me tripotais.
Elle est toujours, hein.
Danseuse,
ouais. Oui.
Ouais. Non, mais je dirais,
je crois
de passé.
Non, mais parce que j'ai pas de nouvelles. Elle m'a pas rappelé, ni rien. Rien. Aucune nouvelle.
Ah. Daniel.
Oui.
Ah, Gabriel.
Oh, joli.
Oh, fini pour moi.
Ça peut, sur ouais. Simplement ouais. Une ouais. Marche militaire.
Tu c'est tout, moi.
Tu reconnais, Gabriel, tu reconnais les talons de Gabriel.
Fascisme Ricard.
Des Santiago.
C'est ça, les fans de Johnny.
C'est ça.
Fascisme Ricard.
Fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle force de l'amour.
Vous allez faire le geste vraiment?
Ah oui, genre,
gênant. Ah, c'est gênant.
C'est quoi le geste?
Non, c'est super,
c'est enchaîné.
Ah oui.
Tout le monde s'est
joué.
Moi j'aimerais être choriste juste pour ça.
Allez, c'est parti, attention.
Mourir l'amour gêné.
Oh oui, encore.
Et là, on vient de provoquer 3 accidents de voiture.
Qui chante ça?
Tom.
Ah, Science ou pas plus? Oh non. Oui, bah oui, non, mais c'est pas qu'il y a des présents.
Alors attendez. Moi, je vais pas être loup, mais je me suis un peu fait voler le...
Ah non, arrête.
Moi aussi.
Tu m'as volé de police.
Tu n'as pas donné ton prénom. Ouais. Tu n'as pas demandé.
Et on sait même pas qui vous êtes. Toi, t'es dans Par Jupiter, logiquement. Donc vraiment, tu n'as rien à faire ici.
Ne vous disputez pas.
La régie.
Depuis quand on doit donner son prénom premier?
Tom l'a donné avant.
Quoi?
Mais ne vous disputez pas.
Vous êtes des grands.
Écoutez-moi, ce qui serait rigolo, c'est qu'ils mettent à tic après.
Je pouvais avoir la traduction.
Ce qui serait rigolo, c'est qu'on traduise.
Angela, je vais te péter le cul quand papa sera pas là. Ouais.
C'est exactement ça que ça veut dire.
Tu es à l'antenne, Florence.
Oui, ah pardon. Mais c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut...
C'est vrai ?
Il vient de le répéter. C'est... Oui, bien sûr. C'est... Je vais te péter.
Oui, mais en créole, okay, ça n'existe pas.
Attention.
Ça n'existe pas.
Nous allons retrouver le niveau de cette émission en recevant André du Soleil dans quelques instants. Et c'est le dernier titre qui remporte la vie.
Beatles.
Pardon ?
Beatles.
Pardon ?
Oui, Julia.
Exactement.
Ouais. À deux, on y arrive à la réponse.
Je m'attendais à Michel.
Titre.
Moi, Alexandre.
Ah ouais, bah ouais. Et Leïla.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson.
Morgan.
C'est une chanson pour faire. C'est une chanson pour faire l'argue.
On a tous une chanson ici. Hein. On a quasiment tous une chanson.
Tant
qu'il de toi.
C'est une chanson.
Je crois pas. Hein. Tom's Dinner, si.
Ah,
si.
Moi j'en ai une dans Notre-Dame de Paris, hein. La comédie musicale.
Ok. Morgan.
De moi.
Morgan de toi.
Ah de moi. À Florence and the Machine, c'est un groupe.
Ouais, mais il y a
Tanguy, t'as une chanson.
Il y a bien un groupe breton obscur qui a dû faire un truc sur Tanguy. Mais moi j'ai des films.
Moi j'en ai plein.
Ouais, c'est vrai.
Moi j'en ai plein.
Daniela.
Daniela. Daniel, Elton John.
Et ouais. Ouais.
Bon, excusez-moi, alors, j'ai fait Juliette et les autres prénoms.
J'ai Eric Clapton,
c'est classe. Hein.
Et j'ai Francis Cabrel.
Victoire, s'il vous plaît.
La guitare.
La guitare.
Daniel Morin, et merci d'accueillir monsieur. Je vais jusqu'au bout.
Ah, tout au bout.
Parce qu'il est beau, il est beau. Ah. André Dussolier, notre ami.
La bande originale avec Nagui.
Tout compte.
Bonjour, oui absolument. Bonjour André, comment allez-vous ?
Bonjour, je suis désorienté, il n'y a pas le public et puis vous étiez déjà en pleine émission, vous étiez en train.
Alors nous avons joué avec Juliette. C'est-à-dire que chaque fois, chaque matin, nous démarrons par un peu de musique, une sorte de blind test pour retrouver des chansons qui ont un rapport à, au thème ou à l'œuvre
évoquée.
C'est ça. D'accord. Et donc Juliette dans son bain, j'ai pas trouvé beaucoup de chansons avec le bain, mais avec des prénoms, oui.
Même Juliette dans son bain, c'est un drôle de... Oui. De titre de film. En tout cas, c'est le titre d'un tableau. Mm-hmm.
Et d'un roman.
Je savais pas du tout. Hein.
Et d'un roman.
Et d'un roman, exactement, de Metin Arditi, et qui est devenu un film, en effet, qui va passer bientôt sur Arte.
Ce soir
même, carrément. Et c'est une. Il y a même deux tableaux qui s'appellent Juliette dans son
exactement.
Bain.
Exactement.
Avec deux angles.
Oui,
précises,
deux façons de voir Juliette dans son bain, de Edouard Munch et de Gauguin, c'est ça, hein.
Exactement. On ne voit pas donc la vie de la même manière, même si c'est la même vie. C'est aussi une phrase qui est évoquée dans ce film où vous interprétez un riche collectionneur d'art. Qui n'a pas une vie de famille, on va dire, très équilibrée. Son épouse, Marisa Berenson, est un peu attaquée par l'alcool.
Oui, voilà, c'est que joue Marisa Berenson magnifiquement, mais oui, il a une vie de milliardaire.
Maria Berenson. Non, c'est Marisa.
Marisa.
Je me rends dans.
Et oui, il a une vie. Il a tout pour lui, mais il a tout contre lui aussi dès le départ, parce qu'en effet, on le soupçonne de plein de choses, de malversations et de crimes. En fait, il faut dire quand même que dès le départ, ce pauvre homme, sa fille vient d'être kidnappée. Je dis ce pauvre homme, il est bon. C'est avec ironie, puisqu'il n'a quand même pas à plaindre. Mais on peut être riche et
pauvre d'esprit ou pauvre de vie, parce que c'est vraiment le cas.
Oui.
Il est.
Surtout sa fille. Se fait enlever, donc il devient
on lui demande pas d'argent, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on lui demande simplement de révéler comment il a fait sa fortune.
Alors sa fille qui n'est plus une enfant, hein, qui est une grande jeune femme, libre, voilà, qui va et vient, donc c'est pas simplement, c'est une histoire aussi qui va le toucher au plus profond, parce que ça reste sa petite fille d'amour, de cœur, en fait. On sent son attachement particulier à elle uniquement.
C'est ça, parce que ces hommes-là sont un peu isolés, même au sein de leur propre famille, etc. Ils sont convoités, mais ils sont adulés, mais avec la fausseté des entours. Oui. Et donc, du coup, cette fille, sa fille chérie, et puis les œuvres d'art aussi qui comptent beaucoup, puisqu'il il veut les faire connaître au public. Ça, c'est la seule chose, le seul rapport vrai qu'il a avec les êtres, c'est sa fille, et puis la réalité des tableaux.
Et puis une envie aussi de communiquer sur son amour. Amour de l'art, au début du film, un documentaire est tourné sur lui, une sorte de panégyrique quand même.
Parce qu'il fait un don, parce qu'il fait le don justement de ces Juliettes dans son bain. Il est donc un formidable mécène, reconnu, félicité, complimenté, et donc sujet d'un documentaire où Bon, il se révèle pas vraiment, mais en tout cas, il y a une équipe qui vient s'intéresser à sa vie.
Oui, on le met en valeur, etc. On dit tout. Alors, il y a beaucoup.
Donc, il est au top de sa carrière.
Il est au top de sa carrière, voilà. Exactement. Et donc, il lui arrive ce drame, et c'est quand même, le film est un thriller, parce que vraiment, on s'attend pas à ce qui va se passer, et la manière dont la vérité va se révéler, étape en étape. Il y a des coups de théâtre successifs, et donc, on est dans un vrai film policier, puisqu'elle a été kidnappée quand même, parce que sa vie est en danger, et qu'on va la découper en morceaux si jamais il ne fait pas ses révélations.
C'est ça.
Ce qui rappelle l'affaire du baron en pain aussi,
exactement.
Où il y avait eu un doigt coupé pour prouver qu'il avait véritablement été enlevé. En fait, il y a deux films dans ce film. Il y a à la fois l'intrigue et le thriller, et l'image de public de celui qui est un mécène et qui finalement a une partie sombre de sa vie qu'il est obligé de révéler, et telle est sa rançon.
Voilà. Et alors,
la rançon de la gloire.
C'est à la rançon de la gloire, et puis c'est aujourd'hui, donc avec tous les dommages que ça peut entraîner, puisque de toute façon, les gens avec les réseaux sociaux peuvent être condamnés avant d'être jugés. Quoi. C'est-à-dire que très vite, la rumeur s'empare des révélations qu'il est obligé de faire sous la contrainte. Et donc, du coup, ça va très très vite. Et sa carrière est foutue, sa vie est foutue. Il est obligé de révéler la vérité petit à petit.
Parce qu'on sent qu'il n'est pas complètement clair non plus.
Non.
Il n'est pas très sympa non plus.
Il cultive cette image publique de celui qui ne veut pas simplement conserver des œuvres inestimables et merveilleuses uniquement à son regard, mais le partager avec le public. Bon, voilà, donc ça, tout de suite, forcément, c'est l'image très très dorée et joyeuse. Mais en réalité, on se rend bien compte que financièrement parlant, il y a des placements sans doute un peu douteux dans des pays.
Voilà. Peut-être du blanchiment.
Peut-être.
Mais c'est un peu votre vie, ça, André Dussolier. Extérieurement, vous avez vraiment une grande cote de sympathie. Et quand on gratte un peu, on s'aperçoit qui est votre vrai personnage.
Ce film a été écrit pour moi.
Voilà.
C'est un biopic.
On en parle tout de suite. On se débarrasse, on en parle maintenant.
Oui, j'ai voulu le dire tout de suite. Et puis, en plus, ça révèle des états d'âme, des sentiments que j'ai jamais exprimés. La colère, par exemple.
Ça va vous faire un bien fou.
Je suis comme ça, je casse tout chez moi, etc. Donc, c'est tout à fait écrit sur mesure.
Et puis, le drame de votre personnage, c'est que il vient un peu de nulle part. C'est-à-dire que il n'est pas issu d'une dynastie de collectionneurs, d'héritiers richissimes. Il était un simple vendeur, je crois, enfant d'épicier.
Oui. On a quelques exemples autour de nous, comme ça, dans la réalité d'aujourd'hui,
de
gens qui sont devenus des milliardaires et qui, en effet, investissent dans l'art, créent des musées et tout. Et donc, ont une... Alors, je sais pas si c'est une passion, peut-être, aussi, qui fait que, tout d'un coup, ils se révèlent aussi par les œuvres picturales qu'ils montrent et qu'ils révèlent aussi au public. C'est une manière aussi d'équilibrer un peu l'image qu'ils peuvent avoir, qui est toujours un peu soupçonnée de choses bizarres, étranges, en effet. Ouais. On se dit qu'il y a des fortunes.
Bah,
comme vous, d'ailleurs, non
c'est pas... Comme d'ailleurs Daniel Morin.
Ah non, on va pas balancer tout le monde.
Dans les tropiques, lui, en son nom. Ouais. Marisa Berenson, Charlotte Gabris, Bruno Todeschini, Nicolas Bridet, Agnès Soral, Marie-Christine Horry, Manu Flétou, Jean-Paul Balmer et Whitney Touré se retrouvent à vos côtés dans ce film dirigé, je ne l'ai pas dit, par Jean-Paul Lilienfeld. Ça s'appelle Juliette dans son bain. On est ravis de vous accueillir, savez. Toujours, quand on sait qu'André Dussolier, quel que soit d'ailleurs le propos.
Même pour les mauvais films.
Quand il vient pour un café, on est content même aussi. André Dussolier est là, on est ravis. Nous sommes ravis. Pas Morgane Cathier qui ne vous aide pas.
Mais non, pas si tôt.
Dis donc, toi.
Non, mais André Dussolier, je vous aime pas. La dernière fois, vous êtes venu parler de Jusqu'ici, tout va bien. Je te raterai pas sur la prochaine, c'est pas grave.
Elle m'a quand même dit avant l'émission, je suis obligé de te le dire, j'ai du sable dans la bouche. J'ai trouvé la phrase formidable.
Mais qu'est-ce qui s'est
passé? J'ai du sable, elle se sentait sèche.
Ok, André Dussolier, la dernière fois, vous êtes venu nous parler de Jusqu'ici, tout va bien, un film, je le rappelle, sur la fin de vie. Et aujourd'hui, vous venez pour Juliette dans son bain sur un homme dont la fille a été kidnappée, la mémoire salie et la réputation détruite. Eh ben, on se marre, dis donc, chez les Dussolier. Moi, je comprenais pas pourquoi tout Paris vous appelle Dédé la déconne, mais là, tout c'est clair. Pourtant, moi, c'était bien parti. J'avais pas vu au début le titre Juliette dans son bain. J'imaginais un truc tout rose, fleuri. J'imaginais Anaïs Desmoustiers qui arrive pas à choisir entre deux mecs et qui fait un peu la moue dans la mousse et tout, et ça sent la fraise. Mais non. Faut qu'il y ait du scandale, du secret, des tableaux de maître. On est quand même sur Arte. Et puis, en plus, ce sujet, le kidnapping, moi, ça me tend particulièrement. parce que il y a presque 2 ans, j'ai été enlevée et mais amenée non. ici, et depuis, j'arrive plus à m'échapper. Mais vous croyez qu'il y a des gens qui acceptent des chroniques quotidiennes de leur plein gré? Ils menacent mes proches, rendez-vous compte. Daniel, il m'a dit tous les jours, tu viendras m'écouter parler de fromage sur la musique des chariots de feu, et tu riras, oui. tu riras. Oui. Sinon, on bute ton frère et ta sœur. Oui. Et franchement, depuis la chronique sur Roquefort d'octobre, je me présente déjà comme fille unique, quoi. Je suis prête. Faites ce que vous voulez, mais libérez-moi. Hier, j'ai reçu un texto de Jérémy Crédville qui me propose un duo en chronique. Donc, si c'est pas vous qui tuez ma mère, elle mourra de honte, quoi qu'il arrive. Sur les vidéos YouTube, je cligne beaucoup des yeux, les amis. C'est pas le pollen, c'est des appels à l'aide en morse, quoi. Blague à part. Je pense qu'il y a rien de pire que le kidnapping. Déjà, quand je vois les photos des gens recherchés dans les aéroports, j'ai des sueurs froides. Mais alors, si ça m'arrivait, j'imagine même pas quand quelqu'un meurt, bon, bah, tu fais ton deuil, puis ça fait toujours une chambre qu'on transforme en salle de gym. Mais en cas de rapt, t'es dans l'attente. T'oses pas commander les elliptiques, tu peux pas valider le devis du peintre, c'est la galère. À tous les coups, on envoie ton doigt à tes parents en accusé de réception et ils connaissent pas ma mère, quoi. Et voilà, bah, elle se ronge encore les ongles, hein. C'est un fléau, quoi. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Mais là, dans le film, Juliette dans son bain, le titre, c'est aussi le nom du tableau que votre personnage décide d'offrir à la France pile au moment où sa fille se fait donc enlever par un mystérieux groupuscule qui va le faire chanter dans le sens chantage. Pas dans le sens chanter une chanson. Et moi, je me suis dit que ça serait génial. Comme demande de rançon. On vous rend votre fille. Mais rendez-vous au karaoké, le Chinatown. Vendredi à 22h. Vous interpréterez J'irai où tu iras. Nous ferons Goldman, vous ferez Céline. Ne prévenez pas la police. On vous rendra l'enfant. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Et après, t'imagines les gars arrivent avec des cagoules J'adore. Et des flingues. Va pour tes cocotiers, tes rivages. Et c'est le meilleur film policier du monde. Après, si vous préférez faire des trucs sérieux sur Arte, moi, franchement, ça vous regarde, c'est votre problème. Mais vous êtes pas le seul à avoir l'amour de l'art, André. Donc, écoutez, continuez la promo. Pour la déconne, on verra plus tard. Moi, je reste ici en espérant que quelqu'un vienne me délivrer avant la chronique sur le Saint-Marcellin.
Merci,
Morgane.
Quel plaisir.
Morgane, ce soir et demain à Versailles, s'il vous plaît, mademoiselle, à la Royal Factory.
Merci.
André Dussollier, donc à l'affiche ce soir sur Arte de Juliette dans son bain. Est-ce que finalement votre personnage est une victime justement de cet enlèvement, ou est-ce que c'est un salaud?
Moi, je pense que c'est une victime, mais j'ai pas le droit de le dire. Il faut que je laisse le spectateur le découvrir petit à petit. Il va le payer cher, d'ailleurs, cette vérité qui est la sienne. Mais en effet, tous les soupçons se posent sur lui, quoi, dès le départ. Et puis, on sent que les gens qui ont kidnappé sa fille ont de sérieux arguments aussi. C'est très crédible, tout ce qui entoure un peu cet homme-là. Toutes les zones d'ombre, les zones grises, etc. Donc, c'est à lui de se battre et de faire valoir sa vérité. Mais voilà, la vérité, on va la découvrir, et c'est vraiment jusqu'au bout.
Non, c'était pas pour dévoiler la vérité, c'était pour savoir comment vous décidez de le jouer, le personnage, dès le début, dès la première scène, parce que il a des rapports avec son épouse assez particuliers, oui. Il a même une manière de parler au sein de sa propre maison, assez agressive.
Bah, il a une sorte d'insolence, etc. Évidemment, quand on lit un scénario, nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît la fin, donc évidemment, on compose le personnage en fonction de ce qu'on va rêver ou de ce qui va être révélé au spectateur à la fin. Donc, moi, je suis fort un peu de toutes les choses que je connais et qui fait que je peux, en effet, faire valoir sa vérité à certains moments. Ou moi, c'est vrai que quand je joue un personnage, je me dis toujours, je pense toujours, on peut rêver, hein, mais à la deuxième diffusion, à la troisième diffusion, en se disant, si ce personnage est un peu ambigu, on dit, tiens, peut-être que les gens vont découvrir ceci et cela, que c'est
une
pas par hasard
couche.
Qu'on a joué une deuxième couche. Comme ça, il y a des rediffusions quand même pas mal en ce moment. Enfin voilà. Et donc je me
c'est
dis.
C'est votre côté très optimiste. C'est.
Non mais je croyais beaucoup à ce personnage tel que je le voyais évoluer jusqu'au bout. Et c'est ça qui a fait que ça a construit toutes ces nuances qu'il y a de scène en scène. Mais en même temps, il fallait laisser le soupçon s'introduire.
L'enquête.
Voilà. Oui, il faut jouer du suspense aussi quand on interprète un personnage comme ça.
Et ce qui renforce justement cette dimension thriller dans ce film, c'est que comme c'est un être en effet richissime, un peu isolé, il est entouré de peu de personnes. Donc on est comme dans une sorte de huis clos finalement.
Il y a un majordome qui est très important.
On a un majordome.
Oui, il joue un rôle
essentiel.
Voilà. Essentiel, important.
Ah bah,
bien sûr.
On arrive à équilibrer des familles.
Mais
comme
je le
ça,
paye
peut-être.
Pour ça. Hein,
Alors c'est ça. Il y a des moments, moi, je me suis marré en me disant, mais est-ce que j'ai le droit de rire? Parce que on sent que quand même qu'on est dans un avec une tension. Il y a ce kidnapping. Il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu. Puis il y a des moments où vous partez dans des scènes où vous êtes, vous énervez, mais moi ça me fait rire quand vous hurlez. Le majordome me fait rire aussi. L'état de délabrement avancé par l'alcool de Marisa Berenson me fait rire aussi. Donc je ne savais pas si j'avais le droit de rire. Est-ce que ça fait partie des, justement, si, oui, des strates avec lesquelles oui, on peut oui, voir
oui,
ce film?
Oui, parce que moi j'ai bien aimé l'écriture de Gilles Torrent et de Jean-Paul Hillenfeld, parce qu'il y a, il ménage à chaque fois une sorte de, oui, de liberté de ton, comme ça, c'est-à-dire que cet être qui est au sommet de la réussite sociale, oui, et puis il peut tout se permettre, il ne se retient pas de dire ce qu'il a à dire, surtout que vraiment il se défend bec et ongles, parce que il a de bonnes raisons à ses yeux de se défendre devant les accusations qui sont portées contre lui. Donc vraiment ça donne beaucoup de liberté, de l'humour,
un richissime collectionneur d'art, oui, qui paye son majordome pour faire jouir sa femme, oui, on est au début d'un sketch, quoi. On se dit pas c'est sérieux, ça peut exister.
Ça existe, c'est
totalement absurde,
mais c'est pas dit, quoi. On le dit pas comme ça, peut-être.
Ah oui, oui, dans la vie, vous voulez dire, dans le film, c'est dit.
Oui.
Vous avez les coordonnées,
pardon.
Vous avez les coordonnées.
Non, je peux les retrouver.
C'est un roman qui a inspiré cette adaptation. Ouais. Est-ce qu'il y avait déjà eu une adaptation de ce roman avant? Ou pas, c'est la première fois?
Non, c'est la première. L'auteur, c'est Metin Arditi, qui d'ailleurs a un lien avec mon copain Pierre Arditi, un peu éloigné. Mais c'était aussi un riche homme d'affaires, Metin Arditi, qui vient en Suisse, je crois, et qui s'est lancé dans la littérature avec succès, et qui a écrit beaucoup de romans. Et celui-ci a vraiment été un thriller, vraiment, qui pouvait
intéresser. A eu du succès, oui. Mais est-ce que vous l'avez lu, ce roman, avant qu'on vous propose l'adaptation? Et vous l'avez lu une fois qu'on vous a proposé l'adaptation, ou pareil, vous êtes resté au...
J'ai pas du tout, parce que... D'accord. J'ai toujours peur de découvrir des choses dans un roman qui pourraient me faire regretter qu'elles n'y soient pas dans le scénario que je vais jouer. Donc du coup, je préfère que la Bible soit le scénario, et puis que je voilà, parce qu'il y a évidemment une interprétation qu'ont fait les auteurs, en fait, c'est ce qu'ils m'ont dit à certains moments. Donc je voulais pas leur dire et chinoiser à certains moments, en disant tiens, on pourrait faire ci, je pourrais le faire à certains moments, mais genre tout s'est bien passé. Le film de François Ozon dont vous parliez tout à l'heure, ça aussi, c'est une adaptation évidemment, mais
il était dingue, ce film, ouais. Il était dingue.
Mais c'est lié à l'interprétation du metteur en scène, du réalisateur. Donc, moi, à chaque fois que j'ai voulu introduire ou dire des choses comme ça, je suis tombé toujours un peu à côté.
C'est un peu votre souci. Hein, chaque fois, quand vous intervenez, souvent ça tombe à côté. En vrai, c'est plus prudent de rien faire.
Bon, alors, à partir de maintenant, je ne dis plus rien.
André, ça ne va pas nous aider, par contre.
Mais non, mais en revanche, je me suis dit, j'ai entendu une sorte de vestige aussi d'une langue française un peu... vous avez dit chinoisée, ça m'a un peu étonné, tergiversé, quoi. C'est ça l'idée?
Oui, peut-être chinoisé, c'est interdit.
Bah, je sais pas, mais ça
c'est pas interdit. Non,
mais non,
c'est
dit...
mal interprétable.
Enfin, ça peut être péjoratif, je crois.
C'est vrai.
Oh, bah, ça peut. Oui.
C'est peut-être
un
dommage. Vous avez raison. Il faut se méfier de tout. Et c'est-à-dire que vraiment.
Enfin, se méfier de tout, je sais pas, mais je me dis que chinoisé, je pense que ça me ferait pas plaisir, moi, si je l'entendais. Enfin,
D'accord.
Bah, je sais pas, mais je me suis posé la question. Je me suis dit, d'où ça vient.
Oui, vous avez raison. Tout est
de Chine. Tout simplement.
Oui, non, mais je veux dire dans le...
Ils sont des fourbes, et je crois qu'il faut le dire.
Bah oui,
ça sous-tend ça.
Je pense. Enfin, la vérité.
Comme l'arabe est un voleur et le portugais a des poils. Je vois pas ce qui te choque.
Mais non, je sais pas. Alors,
tout va bien.
Ça a sûrement été écrit par un nègre.
Ça vient pas de l'ustensile, le chinois, qui permet de passer...
De filtrer.
Ouais, de filtrer.
Non, parce que là, c'est... Non, ça veut dire que ça veut dire compliqué. De ne pas, c'est ça?
C'est pas
de
discuter. Moi, j'essayais de vous défendre, André, mais bon. Si vous êtes raciste, vous êtes raciste. Écoutez, moi, je ne peux rien. Hein.
Non, okay. On n'a pas dit ça.
C'est vrai, c'est une vieille réputation, peut-être.
c'est une ancienne expression. Tu as raison, raison. Pour en revenir au jeu, André Dussolier, il y a une forme de huis clos, un tout petit peu quand même, dans ce château, ou dans cette maison.
Et ça manque de chinois,
de luxe.
Ça va être hyper long.
Ça y est.
Parce que c'est vrai que cette maison ressemble presque à un musée. Chaque mur est une toile. Il y a des murs bleus comme pour mettre en valeur comme ça les toiles qui seraient suspendues dans le ciel. Mais c'est aussi impersonnel. C'est-à-dire que c'est pas une maison dans laquelle on vit. C'est une maison donc que l'on visite.
Parce qu'un musée. Ouais.
Voilà. Il n'y a rien sur son bureau. C'est
ça.
C'est le summum du chic.
C'est une grande maison où finalement il est tout seul, tout petit.
D'une froideur. j'adore.
Au milieu du drame qu'il est en train de vivre, ouais. Et puis entouré par la peinture, c'est on a l'impression que son seul rapport vrai, c'est avec les peintres qui ont écrit, peint ouais. ces tableaux, et voilà, c'est le seul rapport de vérité qu'il puisse
avoir. Et tout est froid, les rapports avec son ami, avocat, son conseiller de toujours, ouais. ces scènes à table où personne n'a rien à se dire, on a beau être 4, 5, 6 autour de la table, c'est
isolés,
un silence.
Oui, bien sûr, parce qu'on on les complimente, ou on leur donne que du faux, quoi, finalement. Ils sont entourés de pas mal de... J'ai connu comme ça quelqu'un qui était très... Enfin bon, et qui au fin fond de l'épreuve
très riche, dites-le, vous avez envie de
riche,
dire.
Voilà, oui, c'est voilà. Ça, très riche. Et oui, c'était dans ma région d'Annecy, il décorait les maisons du roi du Maroc, etc. Puis tout d'un coup, il a fait faillite et on l'a retrouvé au fond de son appartement, de sa maison gigantesque, près de la chaudière, quoi. Vraiment comme si tout d'un coup, sa vie se réduisait au départ, alors qu'au départ, il était...
Il se terrait au fond de sa maison.
C'est la deuxième fois qu'on parle de Pierre Arditi, quand même.
Il serait temps de parler de François Berléand, parce que quand même. Si, on n'est pas loin de la cave avec l'alcool et tout. Non,
non, mais c'est vrai que ça semble tout ça nécrosé. Enfin, il y a un truc de. C'est pas vivant, il y a une façon de se tourner dans le passé.
De repli sur soi.
Oui.
Et puis, dans le jeu, est-ce que ça a été abordé aussi comme une sorte de huis clos de pièces de théâtre? Parce qu'il y a quand même des scènes où vous êtes dans un ballet d'entrée et de sortie dans les pièces. Est-ce que ça a été vécu et tourné et répété comme ça?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Parce que, en effet, de toute façon, tout est censé se passer dans cette maison, même quand les flics viennent l'interroger, etc. Et donc, il éclate devant eux sans crainte, hein, sans peur de déconcentrer. Conséquences, mais il va tout faire pour sauver sa fille. Donc il est là, isolé, encore plus isolé. Peut-être que la dimension de cette maison donne encore plus l'impression de son isolement, de sa solitude.
C'est à la base aussi une histoire qui résonne, en tout cas dans les années 70, il y avait beaucoup de rapts comme ça, de kidnapping qui étaient faits, peut-être heureusement moins aujourd'hui, mais on évoquera tout à l'heure avec Agnès Grossman qui est journaliste, des portraits de tueurs en série et qui travaille notamment elle pour l'émission en fait entrer l'accusé, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de kidnapping, c'est évoqué d'ailleurs dans le film autour de cette idée d'enlever des gens et de leur couper qui un doigt, qui une oreille aussi. Enfin, il y avait chaque fois des...
Oui, Getty, le fils Getty aussi.
Ouais, c'est ça. Non, c'est... Oui, je savais pas comment le dire. C'était pas systématiquement un doigt. Voilà, c'est tout.
Il y avait des gens plus créatifs aussi.
C'est ça. Ils cherchaient d'autres parties du corps. Voilà, c'est ça. Très bien.
Il y a une petite surprise en ce moment.
Voilà. On va évoquer ça dans quelques instants avec donc Agnès Grossman. On continue d'abord, évidemment, André Dussolier comme invité jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Florence Mendès.
Bravo. Je me suis rendu compte d'un truc, je suis nulle pour raconter des blagues.
Ça, alors, c'est vrai.
Hier à une soirée, on me dit, t'es humoriste, raconte une blague. Alors je pars sur un truc simple, c'est un ours qui rencontre un panda et qui lui dit, alors t'es toujours fan de Kiss. Inratable. Tout ce qu'il faut, c'est un public un peu sensibilisé à la cause du heavy metal et des ursidés. Mais je suis parvenue à me planter. J'ai dit, c'est un ours qui rencontre un panda et qui lui dit, alors, t'es toujours fan des CDC?
Non,
attendez, c'est pas ça. C'est un panda qui dit non plus. Où est-ce que vous allez? Revenez, c'est un ours, il est fan de Muse. Et putain, j'étais à ça de me faire des amis, vraiment. Bref, tout ça m'a donné envie de vous parler d'environnement, de toutes ces espèces hein, qu'on massacre dans l'indifférence générale. Les femmes, non, pas les femmes, les requins, par exemple. Les requins qui, au cours de leur vie, peuvent perdre jusqu'à 37 000 dents. Remarquez, les femmes battues aussi. Entre parenthèses, vu les chiffres sur la violence faite aux femmes, hein, grande cause du quinquennat, mon cul, c'est surtout la grande cause toujours. Mais revenons aux animaux marins. Il y a les dauphins aussi. Enfin, j'ai moins de pitié pour eux depuis que j'ai appris que ce sont des violeurs. Les dauphins, c'est des violeurs. Ouais. Et nous, on se prend en photo avec. Je me demande si dans un monde parallèle, il y a des dauphins qui se prennent en photo avec PPDA. Alors, c'est pas facile hein, d'être un animal aujourd'hui. Le président de la Fédération Nationale de la Chasse, il a dit que les animaux, ils faisaient que manger et n'avaient pas d'émotion. Comme Fanny Ruet. Non, pas tout à fait. Les animaux, ils veulent se reproduire aussi. Enfin, pas tous. Regardez les pandas. Ah bah justement, alors c'est l'histoire d'un panda. Et... Oh merde, hein, je suis ici pour dire des trucs sérieux, engagés, pour conscientiser les gens, ok. C'est con en plus, il y a presque plus de pandas, mais les rats et les pigeons, il y en a des millions. Visiblement, chez les animaux, c'est l'inverse de chez les humains. C'est les plus moches qui baissent le plus. Ils cassent les couilles aussi, les pandas. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Un tire-lait sur la tub pour le mâle et la femelle, je te l'insémine à la sarbacane, tu sais, comme ça. Alors oui, je suis très concernée par la disparition des, merci Morgane, des espèces. J'avais été marquée début 2020 par les images des incendies en Australie où on voyait tous ces koalas brûler. Enfin, je comprenais pas, les gens y paniquaient, ils disaient « Oui, les koalas, ils sont en train de s'éteindre ». Ben ouais.
C'est horrible.
Non mais vraiment, faut sauver les animaux, faut sauver les animaux. Il y en a des passionnants. Tenez par exemple, le drosophile bifurca produit un spermatozoïde 20 fois plus gros que lui. Alors imaginez, chez les humains, ça donnerait un spermatozoïde de 30 mètres, une faciale et bim, trauma crânien, tu vois. Le caméléon, il peut projeter sa langue sur une distance deux fois supérieure à son corps. Alors le harcèlement de rue chez les caméléons, ça doit être hardcore hein, quand même. Et la tortue, elle est capable de respirer avec son anus. Bon, remarquez, chez les humains, on en a qui sont capables de parler avec leur anus, ils sont tous sur CNews. Le plus triste dans tout ça, c'est que le comportement de l'homme coûte cher à la planète et que la nature paye en espèces. Alors ouais, voilà, engagé. La bonne nouvelle pour les animaux, c'est que si l'homme continue comme ça, une des prochaines espèces qu'il va réussir à éteindre, ce sera lui-même, comme quoi la nature n'est peut-être pas aussi mal faite que ça, finalement.
Merci Florence Mendez.
Florence Toulet, jeudi à Paris, aux Métropoles, et ce soir et demain à Marseille.
Tout à fait.
Ça, c'est la bande originale de Juliette dans son bain. C'est ce soir, 20h55, sur Arte, avec André Dussolier, qui est notre invité. La musique est à la fois inquiétante et chic.
Ouais, c'est, ouais, ça. C'est comme André Dussolier. Hein. Chic et inquiétant. Hein.
On l'écoute cette musique aussi parce que ce film a décroché le prix de la musique originale pour Philippe Sard. Oui. C'était au festival de Luchon. La musique dans la vie avant d'accueillir, je vous l'ai dit, notre
Agnès Grossman.
Spécialiste, exactement. Agnès Grossman, journaliste et auteur. La musique dans la vie.
Et psychopathe.
D'André Dussolier. On va commencer en 72.
C'est un beau roman.
Ah oui.
C'est une belle histoire. Ah. C'est une romance.
Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique? Ce sont les paroles d'abord ou c'est la mélodie?
Hein,
ce sont les paroles ou la mélodie? C'est cette
idée. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est un moment à la fois très heureux et très triste. C'est rare, hein, dans un seul instant. Très heureux parce qu'en 72, je venais de sortir du conservatoire et que tout s'était très bien passé.
Trois premiers prix à la sortie du conservatoire,
André
Dussolier.
Ça calme.
Comédie classique, moderne et étrangère.
Qu'est-ce qu'il y a triste là-dedans?
Et triste parce que je venais de vivre une rupture sentimentale vraiment très douloureuse. Et voilà, le même moment. Et donc j'étais dans les rues d'Avignon, je me souviens, j'avais été rejoindre la
personne concernée
que je rêvais de retrouver. Et puis j'ai appris que j'étais pas le bienvenu. Donc j'étais dans les rues d'Avignon, il faisait très très chaud. Et j'entendais sans arrêt cette musique de Michel Fugain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire qui était vraiment tout à fait contraire. Enfin, et en même temps, qui correspondait à ce que je vivais à la sortie du conservatoire et puis contraire
mais
à ce que j'aurais bien
pardon André, partager. Comme vous le racontez, on a l'impression que ça vous touche toujours, cette rupture.
Oui, oui. Ça m'a marqué vraiment très fort parce que j'étais vraiment prêt à passer des vacances idylliques. Hein. C'était à la fois pour vivre un bon moment de ma vie professionnelle, parce que c'était une première étape importante, et puis un moment sentimental très fort. Ouais.
Vous êtes un
et
grand puis... romantique.
Grand, je sais pas, ouais, enfin.
Ouais, vous avez l'air en tout cas.
Ouais. Oui, je l'étais en tout cas beaucoup à cette époque.
Ouais.
Et
moi, il me fait peur. Hein. Moi,
il me fait peur. Non. Et voilà. Et puis bon, je suis reparti. Je suis reparti vivre ailleurs. Voilà, je ne suis pas passé l'été à Avignon.
Ouais. Ah ouais, à ce point-là.
Mais c'était un peu triste.
Ouais, je comprends. Mais alors, de la joie un petit peu, parce que vous sortez du conservatoire, bon, il y a cet épisode, voilà. Mais vous êtes aussi, vous entrez à la Comédie Française.
T'as vu comment elle base, histoire d'amour, pour cet épisode, ça.
Mais non, mais trois premiers prix, tu vas pas nous emmerder.
Une de perdue.
Après, chacun voit les choses.
Je suis devenu milliardaire, d'ailleurs.
Voilà.
Non, mais il a l'air
tellement.
Il a l'air tellement peiné que je voulais pas revenir sur cet épisode. Bon, vous entrez à la Comédie Française.
Oui, c'est vrai.
Oui, et puis vous en partez un an après.
Oui, c'est vrai, parce que manque de bol, il y avait des grèves à la Comédie Française. Donc du coup, les pièces que je voulais jouer, en particulier Filin dans Alcée, etc., tout a été supprimé. Et on jouait sous chapiteau dans les Tuileries. Voilà, c'est une expérience tout à fait particulière. Enfin, et un jeune pensionnaire qui venait d'entrer n'avait pas le droit à plus de deux congés. C'était des lois napoléoniennes. Et donc du coup, on était plusieurs comme ça dans ce cas où on pouvait pas sortir du Français. C'était Pierre Dux qui a fait changer les lois après, mais on était trois à partir. Il y avait Isabelle Adjani, Francis Perrin et moi, et parce que on était coincés, on pouvait pas faire de cinéma. Pour un jeune acteur, c'était un peu difficile de refuser les propositions de cinéma à cause de cette loi qui nous empêchait de...
D'autant plus que vous décrochez votre premier rôle dans Une belle fille comme toi de Truffaut.
Oui, comme moi.
Voilà. Mais comme moi. André Dussolier, j'imagine que entrer.
C'est une comédie queen.
Oui, c'est ça. Mais... c'était pas le genre de Truffaut.
Folle du désert. Être à la Comédie Française, ça devait être un rêve que vous, que vous caressiez depuis des années. Et le briser en un an, c'est quand même relativement court. Je comprends aussi la frustration de pas pouvoir faire d'autres choses.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une nuit blanche de réflexion en disant mais qu'est-ce que je fais?
Je pars, je reste. Les gens du français,
ça peut être un déchirement.
Renverse le bureau sur l'administrateur, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, c'est vrai que cette loi est absurde, mais je voulais pas rater, c'était important pour un jeune comédien, les propositions de cinéma, c'était remonté jusqu'à au ministre de la culture de l'époque, c'était Maurice Druon.
C'était aussi risqué de quitter la Comédie Française sans savoir ce qui allait se passer au cinéma.
C'était un choix cruel, cornélien, parce que je me disais, bon bah les rôles, je les retrouverai jamais, c'est vrai que c'est magnifique la Comédie Française, des rôles classiques qu'on rêve de jouer un jour, et voilà, j'ai pas eu la patience parce que je me sentais déjà très âgé, j'avais 26 ans, et donc je pouvais pas faire le cinéma que j'aurais voulu faire, et le cinéma, si on rate la première occasion, c'est difficile de la retrouver.
Et quand on quitte le français, on peut y revenir ou pas? Ou il y a des règles strictes?
Ça peut arriver, oui, c'est vrai, si on manifeste l'envie, et si tout, mais enfin maintenant,
ce qui n'a pas été
la troupe est tellement magnifique, et puis les gens qui sont là et qui ont grandi ensemble, c'est rare quand même.
Et les autorisations sont plus souples aussi, l'intelligence.
Ah, les autorisations, maintenant, alors, ça va, ça vient, les gens peuvent faire du cinéma, je pense à Denis Podalydès ou d'autres.
Oui.
Guillaume Gallienne.
Gallienne, etc.
Non, on peut y retourner aussi plus tard.
Oui,
ce qu'a fait Dominique Blanc, par exemple.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, là maintenant, j'ai trouvé mon compte tout en tant que cinéma que théâtre. Donc,
Comment ça, vous n'avez pas envie d'apprendre 15 rôles en même temps et jouer tous les soirs et dans un rythme d'enfer quand même.
En 93, André Dussolier, vous écoutiez.
Ça sent la rupture aussi.
Ouais, c'est
ça sent la rupture.
Ça sent la rupture. Cette fois dans les rues de Nice.
Et je m'apprêtais à passer des vacances, et puis non.
J'étais à Rome, j'étais allé la voir à Rome, elle ne voulait plus me voir. Et j'écoutais Laura Pausini.
Je l'ai vu passer l'été avec Pierre Arditi. Et là, je peux te dire que...
Je lui ai balancé une chaudière.
Non, mais c'est pas sympa, on se moque d'André, il a souffert. Hein. Franchement, il avait... Non, mais vous avez l'air... Non, mais c'est vrai, on se moque d'André.
Ah, ce revirement de situation, lui, là.
Oui.
À quel moment on écoute Laura Pausini?
Alors, en 93, mais c'est pas du tout le suite à une rupture, pas du tout. Au contraire, c'est un bon moment, puisque je me souviens que... Oui, c'est à la suite, d'ailleurs, d'un film de Claude Sautet, qui s'appelle Un cœur en hiver, et où j'obtiens
un César,
oui, exactement, que je ne peux pas aller chercher d'ailleurs, et c'est mon fils qui me l'amène à Chamonix, où nous étions en train de tourner Les Marmottes de Elie Chouraki. Et j'avais pas pu aller le chercher, ce César, donc non.
Alors, dans ce genre de situation, normalement, ceux qui sont nommés, sont assis dans la salle, ne savent pas s'ils l'ont ou s'ils l'ont pas.
Oui.
Vous n'êtes pas dans la salle, est-ce qu'on vous prévient avant en disant, vous allez la voir, pouvez-vous venir? On insiste lourdement pour que vous veniez dans la salle.
C'est vrai que ça a évolué. Bonne question.
Ah, de temps en temps, ça lui arrive. Pour une fois.
Que le vendredi.
On est en 93, il n'y a pas de téléphone portable.
C'est-à-dire que c'est vrai qu'après le premier tour, après le premier vote, avant les nominés, on connaissait le nombre de voix. Et là, j'étais largement en tête. Mais donc, on nous laisse entendre que peut-être ce serait pas mal que vous soyez là ce soir-là.
César du meilleur acteur dans un second rôle, donc pour Un cœur en hiver. Un prix que vous allez recevoir aussi en 2002 pour La Chambre des officiers, à nouveau. Le César du meilleur acteur pour On connaît la chanson, c'était en 98. Vous dites que recevoir un César, c'est un peu la Saint-Valentin de l'acteur.
Joli.
toujours une référence romantique. On est romance,
toujours
romance
flirt,
à fond quand même. André, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez eu trois grands rendez-vous romantiques avec le cinéma français, avec ces prix-là. Est-ce qu'il y a des films pour lesquels vous auriez aimé avoir une récompense en particulier
oui,
parce
oui,
que
oui,
y a, on peut ça, être...
ouais. Le succès est toujours un malentendu, comme disait Cocteau. C'est-à-dire que oui, on peut pas, on pourrait avoir à certains moments, on a l'impression que les prix seraient bienvenus à ce moment-là plutôt oui. qu'à tel autre où on l'a reçu. Mm. C'est vraiment quelquefois un concours ou une addition de choses qui fait que bon, tout d'un coup, on vous distingue, mais c'est pas forcément pour le rôle. Oui. Vous avez fait allusion tout à l'heure à Tout s'est bien passé, le film de François Ozon. Enfin, c'est un film qui aborde la question de la mort volontaire. Et évidemment, l'année dernière, quand il est sorti, et même au Festival de Cannes, personne ne voulait voir ce genre de film. Quoi. Ça faisait, on traversait une telle période. Et pourtant, c'est un film vraiment qui m'est cher, qui est, je trouve, très réussi.
Absolument.
Même drôle, à certains moments, malgré le sujet. Et
pour
ça,
lequel
là,
vous auriez pu être récompensé bon, pour votre performance.
Disons qu'on se dit, tu vois, oui, là,
évidemment.
Je vais faire
sûr.
Un travail, mais on sait très très bien qu'on est au milieu de tas de critères qui font que... Et quand Benoît Magimel l'a reçu, j'ai trouvé que c'était très très bien, c'était très mérité. Il y a plein d'acteurs qui méritent et qui l'ont
en pas
En
coulisses, vous avez quand même dit c'est du vol. Hein.
Voilà. Non, j'ai fait la distinction parce que lui, non, il le mérite.
Le succès, dire le succès est un malentendu, oui. ou en tout cas cautionner cette formule, oui. c'est aussi une forme de coquetterie, comme vous le dites. Il y a aussi un travail, il y a aussi des rendez-vous qui sont pris et il y a des succès qui sont mérités, attendus, reconnus.
Ça peut arriver. Oui, absolument.
Négliger ce côté-là. Oui.
Ça peut arriver au bon moment et c'est peut-être justifié.
Parce qu'il y a des vrais gros malentendus où on se demande comment le succès est arrivé pour certaines personnes, mais il y a aussi énormément de travail qui sont cachés par la forêt.
Oui, oui. Mais enfin, tout ça est absolument pas. On peut pas le pronostiquer, on peut pas le dire.
C'est voilà, ça qui est ça magique. Arrive, ouais. ouais. En 2001, vous écoutiez évidemment comme nous tous.
Ah, d'accord.
Jean-Pierre Jeunet nous avait raconté avoir découvert cette musique dans un taxi par hasard pour en faire la bande originale du film. Il était vraiment...
Amélie Poulain.
Ouais. Ouais, un et pur vous hasard. Êtes la voix d'Amélie Poulain, André Dussolier.
Le narrateur.
Et le narrateur, ouais. cette voix off. Et là aussi, ça arrive, c'est un peu un concours de circonstances.
Oui.
Jean-Pierre Jeunet cherchait une voix off.
Oui.
Il ne trouvait pas. Oui. Et la suite, vous allez nous la raconter.
Mais il cherchait la voix d'un... Alors ça fait référence à un feuilleton qui avait beaucoup de succès. Robert Stack, comment ça s'appelait ?
Les Incorruptibles.
Ouais, voilà. Il y avait une voix française, en effet, qui racontait un petit peu le début de l'histoire, qui nous mettait en situation, qui était magnifique. Il avait voulu retrouver cette voix-là, mais la voix de l'interprète français avait un peu changé, évolué. Donc il cherchait cette voix, il faisait des essais. Et un jour, en effet, il est à Boulogne, et tout d'un coup, il est dans un bureau voisin de montage. C'est Jean Becker qui montait, et il entend ma voix. Il dit, tiens, on n'a pas fait d'essai avec celui-là. Donc je fais et donc il m'a proposé de faire un essai et ce qui a été vraiment agréable c'est de construire cette voix parce qu'il voulait une voix un peu journalistique comme ça
ouais.
Comme un vrai personnage quoi vraiment donc on a passé du temps puis lui j'allais dire il pinaille moins que moi mais
il travaille.
Vraiment
il travaille.
Il travaille exactement il cherche on a cherché jusqu'à créer cette voix qui en était
et c'est le même plaisir d'être un acteur off qu'un
oui.
acteur
homme. Oui. Ouais. Bah, vous savez, c'est pour ça que j'écoute votre émission, que j'écoute beaucoup la radio, parce que, comme dirait Orson Welles, la supériorité de la radio sur le cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. Parce qu'on imagine tellement les gens qui nous parlent. C'est vrai, c'est on est très actif quand on est auditeur. Et donc, moi, j'ai commencé avec la radio. La télévision est venue très tard dans ma vie, quand j'avais 13 ans. Donc la radio, on imagine. Donc c'est ça qui fait que la voix a toujours été un élément, puis en plus c'est le seul élément qui peut créer le suspense, les nuances,
ouais,
les variétés.
C'est pour ça que moi je suis contre toutes ces caméras qui filment la radio, parce que pour moi la radio
c'est vrai.
Doit être dans l'évocation et dans le rêve, dans l'imaginaire, et pas dans le concret.
Alors,
et pas dans
qui
l'image.
Regarde l'émission
mais, je crois qu'il y a des gens.
Pas moi.
Et votre voix a dû beaucoup voyager aussi, parce que je sais pas si déjà en 2001 les gens avaient l'habitude de regarder des films en version originale, mais ce film a été un succès incroyable, planétaire. Il y a encore des hordes de touristes qui font un circuit dans Montmartre pour voir les endroits où Amélie a pu se promener. Donc votre voix aussi, elle a traversé toutes les frontières, en fait.
Je pense que le film a été adapté avec les voix qui correspondaient à chaque pays. Mais si
les gens ont regardé la version...
Mais sans doute qu'ils ont en effet voulu prendre le ton qui avait été voulu par Jean-Pierre
Jeunet. C'est la direction que vous avez donnée ensemble.
C'est vrai.
Revenons à Juliette dans son bain, cette affaire d'enlèvement qu'il y a dans ce, d'abord dans le roman de Metin Harditi, et ce film passant ce soir sur Arte. Agnès Grossman nous a rejoint. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur, vous avez signé plus de 15 portraits de tueurs en série. Pour... Ça va sinon?
Oui, ça va. Oui, au contraire. Ça
pour
m'a...
Faites entrer l'accusé, vous avez signé également l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci, paru aux éditions Presse de la Cité. Je disais tout à l'heure que, heureusement, ces affaires d'enlèvement n'étaient plus d'actualité. C'était une autre époque. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs qu'il y en a eu beaucoup à un moment dans les années, j'allais dire 70, je me trompe peut-être.
Oui, c'est dans les années 70, il y en a eu beaucoup. Oh, écoutez, ça faisait partie de la criminalité. Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y en ait plus, ou quasiment plus.
Mais
il y en avait beaucoup, comme il y en a toujours eu.
Qu'est-ce qui a arrêté les kidnappeurs et les ravisseurs de faire ces horreurs?
Alors, qu'est-ce qui a arrêté
c'est
plusieurs choses.
D'abord,
la police était très efficace.
D'accord.
Parce qu'il y avait toujours énormément de moyens qui étaient mis sur les cas d'enlèvement. Et donc, souvent, ils étaient arrêtés et souvent, la rançon retrouvée et ils étaient condamnés de façon très sévère. Donc, déjà, l'efficacité de la police était quelque chose qui les refroidissait carrément.
Donc, ce n'était plus un bon créneau, donc on laisse tomber, on passe à autre chose.
Alors, il y a eu quand même deux choses. C'est en 75, les autorités se sont opposées à tout versement de rançon.
D'accord.
Donc, c'était clair qu'on payait plus de rançon, mais ce n'était pas tout à fait vrai parce qu'il y avait toujours des familles qui essayaient quand même malgré tout. Et puis après, quand même, ça a été un coup d'arrêt. L'idée, c'était quand même la police prend les choses en main et ne paye plus. Et puis en 77, la police a signé un accord avec la Banque de France qui devait l'informer de tout mouvement inhabituel sur les comptes de tout le monde et qui préparait la rançon. C'est elle qui donnait les billets.
D'accord.
Et dans les billets qu'elle donnait, les numéros de billets étaient relevés.
Traçabilité,
et 20% des billets appartenaient à une série qui n'était pas mise en circulation. Donc dès qu'ils sortaient, qu'ils pouvaient dépenser quelque chose, on les retrouvait tout de suite.
D'accord.
Donc ça a énormément... Et puis en fait, on s'est rendu compte surtout que en fait, on ne payait pas la rançon de plus en plus parce que en fait, le fait de la payer ne protégeait pas celui qui était enlevé. Et presque au contraire. Parce qu'une fois qu'ils avaient les sous,
ils avaient
intérêt à partir vite fait et ils avaient un témoin. Donc ils avaient presque intérêt, le fait de payer la rançon ne protégeait pas du tout l'otage.
J'évoquais tout à l'heure, et c'est d'ailleurs évoqué dans le film aussi, l'enlèvement du baron Empain, c'est la plus célèbre des affaires d'enlèvement.
En France, oui. En plus, parce qu'effectivement, dès le lendemain de son enlèvement, on a envoyé un petit bout de phalange, la troisième phalange.
De l'auriculaire.
À sa boîte, en fait. C'est ceux qui ont traité avec les ravisseurs, c'était les représentants du groupe Schneider, puisqu'il était patron du groupe Schneider. Et puis, parce que ça a duré très longtemps, ça a duré 63 jours, le baron Empain était une personnalité flamboyante, et qui, en fait, avait une vie qui n'était pas forcément vertueuse. Et tout a été déballé dans la presse, et notamment, bon, il était très joueur, ça se savait, puisque les gens qui l'ont enlevé avaient eu l'idée de l'enlever, parce qu'ils avaient appris qu'il avait perdu 1 million de francs en une soirée au casino. Donc c'est ça qui fait qu'il l'avait repéré. Mais en fait, toute sa famille s'est délitée derrière. Et d'ailleurs, quand il a été relâché, il n'a pas du tout été bien accueilli par sa famille et par sa femme. Et d'ailleurs, après, il a changé de vie. Il a beaucoup souffert de ce qui s'est passé pendant sa détention.
Des résonances.
On ne s'est pas battu pour le récupérer.
C'est ça.
C'est vrai. On ne s'est pas battu pour payer la rançon. Et puis, il s'est rendu compte qu'il n'était pas très aimé, ni par sa femme, ni par sa famille.
Parce que super, la famille.
Non, mais c'est triste, la vie de milliardaire.
Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Ça rejoint un peu le Juliette dans son bain. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'empathie, finalement, pour ces familles bien nées ou qui ont grandi dans la soie en se disant, bon, ils n'ont que ce qu'ils méritent, finalement. Il y a un côté très violent de justice.
De justice sociale.
De vengeance.
Non, mais c'est vrai que le fait qu'il ait dépensé un million de francs au casino.
Ça va vite quand on joue.
Oui, c'est vrai. Et puis, en fait, il y a eu une grosse rançon, puisque en fait, ils avaient demandé au départ 40 millions de francs. Et puis finalement, ils ont eu 20 millions de francs, qui fait à peu près 14,5 millions d'euros.
C'est tombé au moment du solde, c'est pour ça.
Voilà.
Black Friday.
Voilà. Il a été soldé,
c'est ça. Les grosses affaires.
Il en a souffert.
Mondialement connues, c'est l'affaire Bettencourt, c'est Campouche, ce sont des...
Alors c'est d'autres affaires, parce que Bettencourt, c'est une affaire politique, et Campouche, c'est une affaire de mœurs.
Il n'y a pas de rançon.
En fait, on peut dire que, si vous voulez, des gens comme Dutroux fourniraient, la base de leur crime, c'est d'abord l'enlèvement.
Mais... dans les affaires que vous suivez pour écrire vos livres ou pour faites entrer l'accusé, il y a des choses quand on est journaliste qui vous choquent, c'est émouvant, où vous arrivez à faire la part des choses en faisant votre métier de journaliste et d'auteur en restant très...
Écoutez,
à l'écart de l'émotion.
Les deux, mon capitaine. Moi, j'ai été attirée par le judiciaire parce que j'avais peur des criminels. Et je pense que j'avais besoin d'intellectualiser et de comprendre ce qu'ils avaient dans la tête, peut-être pour prendre du recul. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a guéri de ma
vous
peur.
Vous avez moins peur.
Oui, j'ai beaucoup moins peur, je n'y pense plus.
Et ça vous donnerait envie de tuer quelqu'un, maintenant?
Quand je vous regarde, je me demande s'il n'y a pas de truc à faire.
Quand vous lisez les dossiers judiciaires, ouais. Et vous lisez notamment les dossiers psychiatriques, vous lisez l'enfance, et vous lisez les caractéristiques psychiatriques, puis vous vous dites, mais moi aussi. Ouais. C'est une question de dosage.
Ça veut dire surtout qu'on finit par comprendre peut-être le processus.
Ouais,
ou
on comprend souvent à ça de basculer. On comprend souvent que c'est un déraillement. Et vous voyez, là j'ai écrit un livre,
L'affaire
Rambla ou le fantôme de Ranucci. Ah, oui. C'est justement parce que j'ai été très émue par son histoire. Parce que des fois, il y a des histoires qui vous touchent. Et l'affaire Rambla, c'est le frère de Marie-Dolores Rambla, qui avait été enlevé par Ranucci, qui a été condamné à mort pour cette histoire, qui lui-même est devenu un criminel. Ah, et ça m'a tellement touchée que j'en ai fait un livre.
J'ai l'impression que vous êtes très limite, madame.
Et c'est aux presses de la cité. Merci, Agnès.
Et sinon, je vous dis juste le coup de l'oreille. C'était le petit-fils de Paul Getty qui a eu l'oreille coupée aux États-Unis.
Ouais. Voilà. Bah, l'oreille, on va la jeter maintenant sur Tom Villa.
C'est la patate.
Non, c'est Tom Villa. Allez, Tom Villa.
Allez, Tom.
Quel est le prix de la semaine? Enfin, sont nommés pour ton prix.
Oui, aujourd'hui, on va décerner le prix de la Elisabeth de la semaine. Et dans cette catégorie, les nommés sont. Première nommée, Elisabeth Borne, nommée première ministre après trois semaines de suspense.
Borne, on te vit live, j'adore.
Ouais, trois semaines de suspense et il y a trois semaines, on sortait déjà le nom d'Elisabeth Borne. Soit Macron avait vraiment envie de prendre son temps, soit il n'a pas trouvé mieux.
Ah oui.
Deuxième nommée, Elisabeth II. Qui fête cette année ses 70 ans de règne. Et à 96 ans, Babette a donné cette semaine le coup d'envoi non officiel des célébrations de son jubilé de platine avec Tom Cruise. Impatient de voir les 100 ans avec Kim Kardashian, ça va être génial. Franchement, je... Et la grande gagnante dans la catégorie de la Elisabeth de la semaine.
Borne.
Elisabeth Borne.
Bah oui, bien.
Alors, c'est sûr qu'on est dans une semaine avec des mystères à résoudre. Qui va être la première ministre de la France-Français? Est-ce que Kylian Mbappé va rester au PSG ou signer à Madrid? C'est vrai que là, on a des suspens. Il est loin le temps du Covid, hein, c'est vrai que c'est bien. Alors, un petit mois sans avoir de gouvernement, hein, c'est ce qu'on a vécu, comme disent nos amis belges, un mois de mai, quoi. Bref, des semaines d'attente où on aura tout vu. Jean-Baptiste Djebbari en train de faire ses cartons sur TikTok. Véridique. Je pensais pas dire cette phrase un jour. Roselyne Bachelot en train de regarder les conditions de modification pour ses vacances sur Fram, en train d'envoyer des SMS à Laurent Ruquier pour revenir aux grosses têtes. Bref, après beaucoup de suspense, Elisabeth Borne donc, a été nommée première ministre. Alors évidemment, sa nomination a fait couler beaucoup d'encre. On a vu beaucoup d'articles, des plus intéressants aux plus futiles. Et France Inter a fait probablement le plus inutile. L'article s'appelle « Les 12 choses à savoir sur Elisabeth Borne ». 12, on n'en demandait pas tant. Franchement, tu sais, c'est comme Combini, tu sais, avec leur vidéo, les 6 choses à savoir et la 3e va vous surprendre. Là, même la 12e, elle m'a pas surprise. Franchement, alors on va démarrer par la 12e. On dit souvent qu'on garde la meilleure pour la fin. Voilà, non, hein. Elisabeth Borne a 5 comptes bancaires, 2 appartements et une Citroën depuis 2015. Voilà. Ah là, j'avoue que je trouve ça très bien la transparence de nos politiques, mais à placer dans une discussion. Elisabeth Borne? Ouais, voilà, c'est 4 Picasso et un T3 à Meudon. Ouais, super. Voilà. Deuxième chose que j'ai appris grâce à l'article de France Inter, elle est réputée exigeante. Ça nous arrange parce que c'est vrai qu'on aurait pris Borne. Hyper laxiste. Franchement, toujours en retard, finit jamais un dossier à l'heure. Non, ça nous arrange que la première ministre soit exigeante. Alors après, on apprend aussi qu'elle a dirigé la RATP. Et elle était tellement exigeante à la RATP qu'on l'appelait burn-out. Est-ce que c'est le meilleur exemple? Non, pardon, mais les mecs, ils ont des journées de 4 heures, ils bossent 2 jours, ils ont 3 jours de récup derrière, je sais pas. Bon, bref.
C'est dégueulasse.
Mais c'est vrai. Je connais des gens qui bossent à la RATP. Et on apprend qu'Elisabeth Borne aussi est amatrice de longues randonnées et de lectures.
Ah, coquine.
Bah oui. On se doute que c'était pas le kitesurf et la PlayStation. Hein. Oui, c'est sur le physique. Oh, bah attendez, et l'égalité femmes-hommes, c'est dans les deux sens. Castex, on l'a démonté pendant 2 piges parce qu'il a la tête de Bourville dans le corneau, ce qui est plus jeune que Brad Pitt, alors qu'on dirait son oncle. Oui, on peut faire 30 secondes sur le fait qu'Elisabeth Borne, rando et lecture, ça lui va bien. Non, mais c'est vrai, c'est pas CrossFit et TPMP, on se doutait. Voilà. Alors évidemment, on souhaite bon courage à Elisabeth Borne dans sa nouvelle tâche. La prochaine grande annonce sera la révélation de son gouvernement. Faudra pas se tromper de chaîne, parce que dans les prochains jours... Oh mon Dieu, Tom Cruise à Cannes? Ah non, pardon, c'était Bruno Le Maire à Bercy. Allez, bonne journée.
Merci, Tom. Ah oui, t'as fait la totale.
Oui, oui, bah oui.
Born to be alive et born to be wild.
J'avais born to in the USA aussi. Mais...
de Tanguy Passureau, de quoi allons-nous parler tout à l'heure?
Je vais vous parler de l'éco-anxiété. Ce n'est pas le fait d'avoir peur de Sandrine Rousseau, ça c'est normal, mais celui de se sentir mal par rapport à la destruction de la planète. Ah.
C'est la bande originale avec Leïla Kadeboudadi, Morgane Cadignan, Florence Mendez, Paul Villain, Tanguy Passureau, Daniel Morin et notre invité André Dussolier. André Dussolier à l'affiche de Juliette dans son bain, une fiction réalisée par Jean-Paul Lilienfeld qui passe ce soir sur Arte à 20h55. L'histoire d'un homme d'affaires richissime, galliériste, marchand d'art qui a toutes les la reconnaissance du pays puisqu'il il offre en tant que mécène une toile qui vaut des millions, des milliards que sais-je, en tout cas à l'État. Et puis d'un coup son image est écornée. Il est présenté, il est obligé d'avouer finalement après avoir eu sa fille kidnappée, la seule rançon c'est de dire face caméra qui il est réellement, et au fur et à mesure les réseaux sociaux s'emparent et la rumeur faisant tache d'huile, c'est la rançon de la gloire, donc la pire des punitions, dire toute la vérité, se découvrir et voir aussi bien sa reconnaissance, sa vie se déliter comme ça, et sa famille aussi partir de travers, parce que c'est...
Ouais, il faut préciser quand même que ce sont des textes qui sont écrits par le groupe qui a kidnappé sa fille, et donc il est obligé de lire. Ouais. Hein. Et donc, est-ce vrai tout ce qu'il est en train de dire? C'est là que réside le suspense.
Mm-hmm. En tout cas, c'est pas des faits qui sont... c'est très compromettant et ça contribue à...
Et très personnel.
Parce que, en fait, finalement, c'est l'intérêt de ces révélations qui ne sont peut-être pas des réelles révélations, c'est que l'image, ensuite, elle est entachée pour toujours.
Pour toujours.
Voilà. C'est et une fou. Fois qu'on vous a vu face cam dire quelque chose, même sous la contrainte, peu importe, ces images, elles vont circuler à vie et votre réputation est ruinée.
Il n'y a pas de fumée sans feu, dirons-nous.
Voilà, bien sûr.
Merci de le noter.
C'est une chinoiserie que tu dis.
Allez,
ça c'est fait. Et il y a dans ce film, aux côtés d'André Dussolier, Marisa Berenson, Charlotte Gabriel, Bruno Todeschini, Nicolas Bridet, Jean-François Balmer et Agnès Soral. Jean-François Balmer, dont j'ai écorché le prénom tout à l'heure, et j'en suis confus. Voici venir, et là je vais faire attention, Tanguy, c'est bien Tanguy, hein. Oui. Tanguy Passureau.
J'ai calculé, j'ai une quarantaine d'angoisses existentielles. Si les psys se penchaient sur moi, ils tomberaient et ne se relèveraient jamais. Par exemple, j'ai peur de la mort, parce que je me dis, si je ne suis plus là, que vont faire les gens à 12h10? J'ai peur de la foule, c'est pour ça que je vais uniquement aux soirées du club des auditeurs d'Europe 1. J'ai peur des araignées, ce qui fait que je ne pourrai jamais faire Fort Boyard. En plus, j'ai peur des leggings et des nains. J'ai peur des maladies, vous avez tous zappé le Covid, moi j'arrive toujours pas à faire la bise à mes amis. Heureusement que j'ai peur des interactions sociales et que je n'ai pas d'amis. J'ai peur d'Elisabeth Borne, parce qu'elle a pas l'air fun. Hein. On sent que c'est pas demain qu'elle va se lancer sur scène et prendre la place de Foresti. J'ai peur des gens qui perdent leurs dents. C'est pour ça que quand je joue dans le Nord, je ferme les yeux. Les Juifs, Daniel Abomdir, je les aime pas trop. Moi, j'en ai pas peur. Par contre, j'ai peur du Festival de Cannes. Ah, parce qu'à cause de ce genre de conneries, il n'y a plus un dealer sur Paris. Ça se voit parce que TPMP cette semaine, il n'y a pas le même rythme. Et enfin, cerise sur le gâteau, comme disaient les Espagnols qui parlent super bien français, je suis éco-anxieux. C'est un syndrome qui vient du fait qu'on est en train d'anéantir la planète. Ça a été reconnu par les psys, alors que la peur de la doudoune sans manche, non. Les psys appellent ça le bon sens. Une étude récente a révélé que la moitié des 16-25 ans disent souffrir d'éco-anxiété. En fait, les petits tous ont du mal à se projeter parce qu'ils savent que c'est cuit. Ça fait pareil que dans un donjon, un monsieur de 150 kilos arrive avec une masse d'armes en cuir. Bon, bah, on n'espère pas grand-chose du futur à court terme, à part un samedi soir sympa. Moi, je suis éco-anxieux parce que j'aime la nature, les animaux, la terre. J'aurais pu facilement me marier avec Hugo Clément, mais j'ai jamais répondu à ses SMS. Par exemple, le niveau des océans qui monte, ça me terrifie. J'ai lu que les Antilles, à l'horizon 2040, font partie des zones les plus menacées par la submersion marine. C'est-à-dire que Morgane Cadignan, sa retraite, elle va la passer dans l'Orne. Hein. Francky Vincent va être sous l'eau, il y aura juste son sexe qui sort. Quant à Daniel Morin, qui est revenu de ses congés noirs, on dirait Jacques Séguéla en moins frais, bah fini la bronzette sur la plage, il n'y aura plus de plage. À Berck, les cabanes à frites qui sont sur la promenade, elles seront dans la flotte pour aller acheter des frites, il faudra nager. Hein, et on ne pourra pas revenir sur la berge parce que les frites du Pas-de-Calais, c'est 20 kilos de gras direct, vous coulez. On le sait peu, mais pourquoi il y a 110 ans, il y a eu aussi peu de survivants dans le Titanic? Parce qu'au resto, ils avaient servi des frites. Ah bah, 2000 salades détox avec un jus de goyave, tout le monde s'en sortait, et on serait pas tapé ce film pourri avec Céline Dion qui glapit sur le pont du bateau. L'éco-anxiété ronge le moral des gens, surtout des activistes, des écolos, parce qu'eux sont confrontés au quotidien à ces problématiques. Moi, quand un Libye style de Laval, je vois écrit dans la salle de bain vos serviettes plantes des arbres, je suis déjà rassuré. Tiens, prenez Howard Brin. C'est un éco-activiste, membre d'Extinction Rebellion. Il a 68 ans, comme Tom Villa un jour. Alors lui, il va pas bien. Moralement, il est dans le même état que Nathalie Saint-Cric si le casque vapeur qui sert à gonfler ses cheveux était en panne. Donc il va voir un psychiatre. Il va voir un psychiatre. Le type le reçoit en aboyant, parce que la moitié sont aussi fous que leurs patients. Il raconte ses angoisses. Le praticien met un nom là-dessus. C'est l'éco-anxiété. Donc là, vous vous dites, un petit séjour à Center Park, le bungalow premium isolé, le matin on voit des lapins courir, il irait mieux. Sauf que non, Brin se dit angoissé pour l'avenir de ses enfants. Bah tu m'étonnes, 50 degrés au Pakistan, il a fait là, tous les types vont venir chez nous par pizzeria à vendre des roses, ils seront 30, il y aura plus de Pakistanais là-dedans que d'anchois. Hein. Et donc ce monsieur qui vit au Canada, le pays de Garou et du sirop d'érable, alors moyen mémotechnique pour les distinguer, Garou c'est celui qui râle quand on essaye de l'étaler sur un pancake, bon. Ce monsieur donc demande un suicide assisté. Alors au Canada, la procédure est simple, vous voulez mourir, Justin Trudeau vient chez vous, fait un clin d'œil pour léchant les lèvres et c'est tellement sexy que le cœur ne tient pas. Hein, en février 2021, Howard Brin avait déjà fait cette demande, il voulait mourir. Mais la loi stipule au Canada que seuls les gens, il y a des maladies graves ou incurables, peuvent mourir sur demande. Donc ça a été refusé. Brin fait donc, c'est le site Vice qui relate l'histoire, une deuxième demande. Alors il est soutenu par son médecin, sa femme, ses deux fils et sa fille. En fait, tous ses proches ont envie qu'il meure, donc ça doit être un sacré con. Hein. Et il a bon espoir que cette fois ça passe, parce qu'en mars prochain au Canada, le programme de suicide assisté sera étendu aux personnes souffrant de maladies mentales. Après, est-ce que l'éco-anxiété est une maladie mentale ou juste une forme de réalisme? Oui, j'avais envie de finir par une réflexion un peu classe, sinon le public va rester sur cette blague gênante concernant les Pakistanais. Bon. Non mais moi je suis angoissé parce que quand Evelyne Delia a débuté, il y a si peu de temps, elle est tellement belle. Eh ben on utilisait encore les expressions en avril te découvre pas d'un fil et en mai fais ce qu'il te plaît, mais maintenant c'est quoi? En avril faut que je me ventile et en mai je suis en train de craver. Hein, non mais après, alors voilà, plutôt que de se suicider, je propose qu'on se batte tous ensemble contre la catastrophe, même si ça paraît inéluctable. On doit ça à nos enfants et à nous-mêmes quand on se regarde dans une glace. Une glace, le miroir, hein, parce que les autres types de glace ont fondu.
Merci, Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau, demain à Lille, au Sébastopol.
Oui. Juliette dans son bain, ce soir sur Arte à 20h55, d'autres événements culturels. Oui. Leïla, cadeau beauté.
Quelle franchise française culte pourrait avoir droit à un quatrième opus?
Une franchise.
Patrice Lecomte a imaginé voilà, un décor à ce qui serait certainement les dernières aventures des bronzés.
Ah bah oui, il va s'arrêter.
Dans un hospice.
Il y a un moment, j'avais bronzé au Père Lachaise.
Mais je crois qu'il y a Thierry Lhermitte cette semaine qui a dit qu'il n'y aurait jamais de quatrième.
Dans un hospice.
Dans un hospice.
Ah bah ouais, ah bah voilà. Absolument. C'est comme ça, en tout cas, que Patrice Lecomte l'a éventuellement envisagé. André Dussollier, est-ce que c'est casse-gueule, ces opus comme ça à répétition? Quand on vous a proposé Tanguy 2, par exemple, est-ce que vous avez hésité?
Non, parce que je savais quand même, dans ces cas-là, et ça a été prouvé d'ailleurs avec La Vérité si je mens, etc., les auteurs sont obligés de se surpasser.
Ouais.
Donc c'est ça la condition, ils le savent bien.
Ouais. Donc le deuxième, on peut l'accepter. Combien de fois on vous a proposé de refaire Trois hommes et un couffin? Est-ce qu'on vous a proposé de faire soit des remakes, soit
de faire Cinq hommes et un couffin,
soit de prolonger l'aventure? Parce qu'en fait, on se dit que quand ça a fonctionné...
Il y a un filon,
c'est une manne financière intéressante.
C'est toujours exploité, ouais. C'est les Américains qui vont très loin, ou même les Français, oui, ils sont allés aussi... Tout le monde y va, mais non, il y a des limites. C'est limité à l'inspiration et puis à l'âge aussi. Je pense que là, qu'est-ce qu'on pourrait raconter de Trois hommes et un couffin maintenant?
Des grands-pères.
Des grands-pères, oui.
Ouais. Non, mais Amélie Poulain, il n'y a pas eu de suite envisagée. Amélie Poulain 2, Amélie Poulain 3.
Oh, yeah. Non, mais
alors, est-ce qu'il y a un personnage que vous auriez aimé retrouver? Vous avez joué.
Je vois pas pour l'instant, non. C'est vrai que j'imagine pas, non. Non. Non, Tanguy, ça a été fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Tanguy 3.
Tanguy 3, non.
Si. Ah non, faut arrêter avec ces conneries. Hein. Moi, à chaque fois, j'en prends pour 10 ans.
Hein. Okay. Ouais, on n'a pas assez entendu la proposition de Tanguy Pastureau pour la suite d'Amélie Poulain.
Oui.
Amélie Cheval. je pense qu'il y a un truc à
côté dedans.
Ceci dit, pour en revenir au bronzé, c'est peut-être le succès de Maison de Retraite qui donne l'idée de faire l'EHPAD avec les bronzés.
Et oui, de développer le public vieillissant. Pourquoi est-ce qu'on ne leur proposerait pas des films concernants?
Il va y avoir un numéro 2 de Maison de Retraite, déjà annoncé qu'il y avait.
D'accord. Dire. Autre question, si je vous dis Lily Rose Depp, Camille Cotin, Fabrice Lucchini, Anna Maria Bartolomei, qu'on a vu dans l'événement d'Audrey Diwan. Je parle du casting du prochain film de qui? Un réalisateur français qui est connu pour des films un peu barrés parfois.
Dupieux.
Quentin Dupieux.
Non.
Michel Hazanavicius.
Il a notamment
t'es capable
fait
de répondre,
une série.
Si tu veux...
Non, mais je te dirais oui, c'est le cas.
Bruno Dumont.
Absolument.
Il a fait le petit quinquin.
J'avais parlé de cette série pour Arte. Donc il va réaliser L'Empire, un film de science-fiction avec le casting que je viens d'évoquer. André Dussolier, vous avez tourné avec quasiment tous les grands réalisateurs du cinéma français. Est-ce qu'il vous en manque encore un ou deux à votre palmarès,
ceux qui arrivent là maintenant, qui sont les
jeunes
futurs
gens.
Grands.
Ouais.
Il y en a beaucoup. Hein.
Et dans ceux qui sont déjà bien installés, est-ce qu'il y a une rencontre qui n'a pas eu lieu, qui ne s'est pas faite pour une raison d'emploi du temps,
oui,
de projet?
Oui, il y en a toujours, il y a des rendez-vous ratés.
En 72, à Avignon, quand...
par exemple, ouais. Non, c'est vrai, mais c'est vraiment une question de circonstances, ouais. De hasard, et d'envie, et de personnage aussi, et d'âge aussi. Je me souviens que François Truffaut avait manifesté l'envie, comme ça, de tourner un film, mais ça, c'est, l'occasion s'y était pas présentée.
Ouais.
Mais voilà, non, on regarde toujours un peu devant, donc fatalement avec la jeune génération.
La jeune génération, et comment justement vous l'abordez cette jeune génération? Vous voyez, vous suivez les films des réalisateurs?
Oui, par exemple,
pour voir
j'ai
un
vu un film là de Éric Gravel qui s'appelle À plein temps avec Laure Calamy, qui est drôlement bien, qui est drôlement réussi. Voilà, il y a toujours des tas de films comme ça qui sortent chaque année.
Et là, vous vous manifestez quoi? Auprès de votre agent, auprès du réalisateur en direct?
Directement auprès du réalisateur, peut-être. Oui, ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie. Je suis pas l'âme de certains qui entreprennent beaucoup, mais j'ai peut-être tort, mais parce que ça fait toujours plaisir à peut-être à un metteur en scène de savoir qu'on aime bien ce qu'il fait.
Ouais.
Après, il faut que l'occasion se présente, que l'envie aussi naisse, germe. Il faut pas vraiment. Je trouve que c'est toujours un peu oppressant pour un metteur en scène d'avoir une envie d'acteur comme ça. Il faut vraiment que ce soit lui qui soit à l'origine du sujet qu'il choisit et ça peut peut-être.
C'est vraiment un jeu de séduction. C'est qui fait le premier pas?
Et oui, il faut qu'il soit suivi du deuxième surtout, et le deuxième c'est quand même le metteur en scène qui le fait, quoi.
Et est-ce que vous pensez que dans votre carrière comme ça, les réalisateurs ont manqué d'imagination ou au contraire ils vous ont projeté dans des rôles, des personnages? Est-ce qu'on est satisfait un jour des rôles qu'on nous propose?
On sait qu'on est dans un métier de hasard et de rencontre et on peut pas avoir tous les rôles, mais quelquefois, c'est-à-dire c'est un acteur aussi de manifester l'envie de faire des grands écarts.
Ouais.
Et donc, ça m'est arrivé comme ça de vouloir faire des choses tout à fait différentes. Et si tout d'un coup, on en acquiert des bénéfices quand tout d'un coup on vous propose de jouer Staline. Mais attendez, je ressemble pas à Staline. Ou bien là, tout s'est bien passé. Bon, et on voit que j'aime bien des rôles tout à fait inattendus. Moi, je suis né vraiment dans le moment en 72 justement où il y avait tout ce cinéma américain où les acteurs jouaient des rôles très très différents. Ouais. Et c'est ça qui me fascinait et je trouvais que c'était ça le métier d'acteur.
Ouais.
Donc du coup, quand on a la possibilité de d'élargir la palette comme ça. Et de faire des choses tout à fait inattendues, c'est ça qui est intéressant et qui peut peut-être exciter l'imaginaire des metteurs en scène. Mmh.
Quelle est votre définition d'un bon acteur ou actrice?
Ah, un bon acteur, c'est... Je pense que c'est... Chez les acteurs, c'est drôle, j'ai... Je crois jamais à l'acteur dans la vie, mais je le crois simplement quand il joue. Parce que il est obligé d'être vrai. Et c'est ça qui me touche chez un acteur, c'est que tout d'un coup, à chacun de ses personnages qu'il interprète, c'est la vérité, quoi. Qu'on est obligé de manifester à travers un personnage, peut-être, mais une vérité profonde, vraie, c'est ça qui me touche beaucoup, quoi.
Alors, au-delà de ressemblance, c'était avec Marc Dugain, le Staline que vous évoquiez, au-delà de la ressemblance, est-ce qu'il y a des rôles que vous refusez en disant non? Je n'ai pas envie ou je ne peux pas me permettre de faire telle ou telle, je sais pas, comédie ou au contraire film d'horreur.
Comédie, non. Alors la comédie, ben ça me manque beaucoup. J'aimerais beaucoup faire des comédies, mais c'est pas monnaie courante. Mais oui, il y a des rôles qu'on peut ne pas sentir. Mais
alors,
je pense que ça dépend surtout du scénario.
Mais alors, qu'est-ce qui vous fait refuser? C'est plus l'histoire que le genre de personnage.
C'est l'histoire, parce qu'il y a tellement de films, encore plus maintenant qu'hier, qui sortent chaque semaine, que de toute façon c'était impossible de tous les voir. Nous-mêmes, on peut pas tous les voir. Donc, du coup, les gens vont d'abord voir une histoire. Ils vont plus voir un acteur. Peut-être que s'il y a en plus des acteurs qui leur plaisent, alors ok. Ouais. Mais ce sera pas déterminant. C'est d'abord l'histoire. Donc, c'est l'histoire qui me détermine, moi, le choix. Et puis après, le metteur en scène. La chance en cinéma français, c'est que le metteur en scène, c'est aussi celui qui a écrit. Donc, il y a une sorte de cohérence. Et puis après, si vous choisissez, c'est qu'il y a encore une cohérence aussi. Il y a un lien quand même. Donc, du coup, on se retrouve en pays de confiance. C'est l'histoire d'abord.
Il y a des rôles que vous avez refusés et avec le recul, vous avez regretté quand vous avez vu ce que ça donnait à l'écran.
Mais Dark Vador,
Matrix.
Oui.
Dommage.
Non, je ne crois pas ou j'ai oublié. Je sais pas. Peut-être, sans doute. Mais je ne vois pas. Non, j'ai pas de regrets.
Il y a des rôles que vous avez acceptés important. Que vous auriez aimé refuser.
On va venir dans cette émission déjà. Alors,
on va passer sur cette question. Okay, parce qu'évidemment, quand on commence un film, on ne peut pas savoir ce que ça va devenir.
Bien sûr. Parce que quand on juge sur le scénario, on peut avoir un super scénario, mais après, la façon dont c'est tourné.
Ah oui, il y a trois étapes. Il y a la lecture du scénario, il y a le tournage, et puis il y a le montage aussi, qui peut réserver des surprises. Donc évidemment, après,
c'est un pari, en fait.
À l'arrivée, on peut être assez loin de ce qu'on a lu au départ.
Dans les projets, alors ce soir, je le rappelle, 20h55, Juliette dans son bain, mais dans vos projets, vous avez prêté votre voix à Batman, Autopsie, ça, une série audio.
Je connais rien à l'histoire de Batman, et je savais pas du tout que les podcasts avaient un succès énorme.
Énorme.
Et à tel point d'ailleurs qu'on m'a demandé de descendre à Cannes pour, avec toute la distribution du podcast. C'est quand même fou. Bon.
Et c'est ce que vous avez fait?
Non, j'y vais pas,
C'est fou. C'est d'autant
plus. J'ai joué le méchant, comme ça, dans Batman, ça m'a bien plu.
Donc vous êtes, c'est sur Spotify, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
La série. Sur Batman, c'est disponible depuis le 3 mai. Avec vous, Anna Girardot, Anaïde Rosam et Julia Piaton. En septembre, vous serez à l'affiche du Tigre et le Président.
Ah oui.
De Jean-Marc Perfit.
Oui.
Et vous jouez Clémenceau cette fois.
Oui. Semblance est frappante, donc du coup
je vous ai poussé la moustache quand vous avez fait
moustache crâne chauve. Qu'est-ce qu'on connaît de Clémenceau? Oui, ça m'a son côté bougon et ses répliques fameuses.
Bon point, non, il est plus rond que vous.
Oui. Et puis son insolence a réparti,
beaucoup
voilà. Ah oui, qu'est-ce qu'a parlé de Nathalie Saint-Cricq tout à l'heure?
C'est Tanguy, ça a écrit son casque chauffant.
Non, parce qu'elle a écrit un très beau livre sur Clémenceau.
Vrai. On l'avait reçu pour ça.
Ah oui, c'est vrai. Et donc, je me suis inspiré des phrases de Clémenceau qu'elle a restituées dans son livre.
Ouais. Vous allez donner la réplique à Alex Lutz dans Jour 37, sous la direction de Quentin Reynaud.
Oui. C'est un vrai plaisir. Là aussi, on aurait pu faire deux films d'ailleurs, parce qu'avec
Alex...
oui, parce que on était. C'est l'histoire du père et du fils qui sont pris dans un incendie absolument gigantesque et qui essaient d'y échapper. Mais c'était tellement une séance d'improvisation continuelle avec lui dans la voiture qu'on aurait pu mettre une autre caméra, parce que vraiment, j'aime beaucoup cet Alex qui n'arrête pas sur un mot n'importe quel. Hein, je sais pas.
Comme Daniel.
Bon, j'ai essayé du temps de la
faire. Non, il est en train d'écrire le papier.
Il est en train d'écrire le papier demain matin.
Ma lettre de démission.
Alors, je suis tombé à côté.
Non, mais c'est-à-dire, jouer des improvisations comme on peut l'imaginer avec Pierre Ninet ou avec...
Oui, des vrais acteurs, c'est-à-dire.
Avec Alexis, qui n'arrête pas, quoi, qui est sur un mot.
Vous aimez ça, l'impro?
Les expressions, oui, j'adore ça. Mais on ne me l'a jamais proposé vraiment. Mais avec lui, ce serait vraiment une partie... C'était une partie de plaisir pendant le tournage dans cette voiture où on était coincés.
Mais c'est une comédie?
Non, pas du tout. C'est un vrai drame. Et on est.
Attends, pardon, c'est un vrai drame. Le film est un drame ou jouer avec Alex Lutz, c'est un drame?
Non.
Ah non, c'était pas un drame. C'était vraiment un grand plaisir.
Et alors, vous avez joué avec José Garcia. Est-ce que ça, c'est un drame ou une comédie?
Ah non, c'était. Là aussi, c'est un drame.
Encore?
Oui, c'est un drame encore. Oui, ben oui, c'est ça. Je rencontre toujours les comiques, mais dans des drames. C'est pas normal.
Qu'est-ce que vous dégagez?
Ça s'appelle Le Torrent, aussi. C'est ça?
Le Torrent, exactement. C'est un film de Anne Leni qui sortira, je sais pas, d'ici la fin de l'année, je pense.
Juliette dans son bain ce soir sur Arte à 20h50. Des excuses à présenter, Daniel.
Oui, déjà, je suis désolé pour Michel Fugain qui, jusqu'à ce matin, ignorait qu'un de ses plus grands tubes était synonyme de chagrin inconsolable pour André Dussolier. Oui, Michel, ta chanson de Babacool Priapic plonge certaines personnes dans la déprime. Oh là là, fallait voir André ce matin dans le studio effondré. Une ruine. Quoi, Nagui? Une épave? Oh non, là, tu exagères. Du coup, désolé pour Madame Dussolier qui a découvert que son mari n'était plus capable de ressentir l'amour depuis 1972. Alors, comment dire? C'est vrai que c'est pas hyper élégant, mais c'est aussi ça, André Dussolier. Un éclouche, une brute.
est mal.
Quoi, Nagui, un salaud? Oh non, non, là, c'est trop.
Regarde, ah. Il est gêné, il sait plus quoi dire.
J'aurais imaginé qu'il était en train de faire ça, il est à côté de moi. Je pensais qu'il écrivait ses mémoires.
Je l'ai perdu la mémoire depuis longtemps. Non, désolé pour tous les comédiens qui rêvent d'avoir un César. Hein, des comédiens qui seraient hyper disponibles pour aller chercher la récompense ultime du cinéma français et qui ce matin ont entendu un monsieur Dussolier qui était en tournage et qui a dit « Pas le temps, c'est compliqué, je vous envoie mon fils, bisous !» Oh, ces comédiens en même temps, hein. Arrêtons de chinoiser. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui ont été choqués, écœurés, ulcérés par le fait que nos invités n'aient plus le droit d'être racistes comme ils voulaient. Alors André, faut pas faire trop attention à la remarque bobo gaucho de Leïla. Hein, et puis bon, faut pas faire de généralité, hein, c'est pas le genre de l'émission. D'ailleurs, la preuve, lundi, on reçoit Olivia Ruiz pour parler paella, chorizo, espadrilles et moustaches.
Les moustaches.
Oui. Ça, c'est l'ambiance de Juliette dans son bain. Fiction réalisée par Jean-Paul Lilienfeld. J'ai pas précisé, il avait également réalisé
La journée de la jupe.
La journée de la jupe, c'est avec ça, Isabelle Adjani, avec votre ami oui. Du français. C'est inspiré du roman de Metin Arditi, avec donc André Dussolier, Marisa Berenson, Charlotte Gabriès, Bruno Todeschini, Nicolas Bridet, Jean-François Balmer, Agnès Soral, tout ça. C'est sur Arte, ce soir à 20h55. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, André Dussolier, à part une bonne journée évidemment et de vite revenir?
Ah ben là, j'ai bien commencé ma journée avec vous, dans le sourire, dans la légèreté, voilà, c'est pourvu que ça continue.
Et... Vous êtes en train de tourner là, dans l'après-midi, demain, vous êtes sur...
Non, je viens de finir de tourner avec François Ozon, mais qui est une comédie, qui n'a rien à voir...
Ah bah alors ah, voilà, bah, vous dites que vous n'en faites pas,
hein?
Vous dites que vous ne faites pas des comédies, racontez-nous.
Si, oui, là-bas, il a voulu passer à l'extrême inverse, là, d'où c'est bien passé.
Génial.
Donc il a fait une comédie où on est plusieurs. Et on va se retrouver, on s'est retrouvé avec Isabelle Huppert, la Fabrice Ouchini aussi, Danny Boone, et deux jeunes actrices magnifiques aussi.
Et quel est votre personnage?
Ah, je joue. J'ai une entreprise de pneus. J'ai une entreprise de pneus qui marche très très fort, mais qui est un peu en difficulté, donc il y a un mariage qui va bien m'arranger. Voilà.
Parfait. Lundi, donc, Olivia Ruiz sera notre invité. Passez un très bon week-end. Merci, André.
Merci à vous.